les plateformes de l'opposition, notamment le G7, la dynamique de l'opposition, le Front Citoyen et une frange de la société civile ont organisé ce jeudi des marches à travers le pays pour dénoncer les massacres de Beni et l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Si ces marches ont été autorisées à Kinshasa et Bukavu, elles ont été interdites dans d'autres provinces de la RDC par les autorités. Entre-temps, la majorité présidentielle a reporté sa marche en soutien à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Comment analyser cette situation? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Honorable Martin Fayoulou. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, également coordonnateur de la plateforme Force acquise au changement FAC. Monsieur Alain-André Atondo-Liongo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle. Professeur Alphonse Maïndo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques de l'université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'université de Kisangani. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, l'actualité de ce jeudi reste dominée par la marche pacifique organisée par les plateformes de l'opposition, notamment la dynamique de l'opposition, le Front Citoyen et une frange de la société civile qui se sont mobilisées aujourd'hui à travers le pays. Paul Matendo nous raconte comment s'est déroulée la dite marche dans quelques villes de la RDC.
Nous allons parler justement de quelques villes. Commençons par Bukavu dans la province du Sud Kivu où la marche a eu lieu et a drainé une grande foule. Tout s'est déroulé dans le calme sous l'œil vigilant de la police. À Kalimi et à Moba dans le Tanganyika, les organisateurs évoquent la forte présence de la police pour justifier la non-tenue de leur manifestation. Ici, plusieurs sources font état d'au moins 5 arrestations dans les rangs des manifestants. À Kisangani, la marche a été dispersée par la police. Entre-temps, les activités commerciales sont restées paralysées au centre-ville. Dans la même région, même situation à Bunia. Au centre du pays, cette fois-ci à Kananga, la marche a été étouffée et quelques militants arrêtés puis relâchés par la suite. Cependant, en Rujmaï, la situation est restée plutôt normale ce jeudi dans la ville. Outre l'interdiction de ces manifestations par l'autorité urbaine, les organisateurs de la marche eux-mêmes étaient divisés sur la question. Et à l'ouest de la RDC, d'abord en Bandakan, la marche a été réprimée par la police. Même situation dans la province du Kivu. Dans l'entretemps, au Congo central, dans la ville de Matadi, aucune manifestation publique n'a été observée.
Merci Paul Matendo. Honorable Martin Fayoulou, l'opposition a organisé cette marche pour dénoncer les massacres de Beni et l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Avez-vous atteint votre objectif?
Mais tout à fait. Nous avons atteint notre objectif parce que l'affluence partout et surtout à Kinshasa. Et depuis que je fais la politique ici, je n'ai jamais vu autant de monde dehors dans une marche.
Vous pouvez les estimer à combien?
Nous pouvons estimer à plus de 200 000 personnes ici à Kinshasa. Et pourquoi nous sommes contents? Parce que vous avez parlé de Bukavu, grande réussite à Bukavu. Vous avez parlé de Kisangani. À Kisangani, on a dispersé très tôt le matin et on a transformé ça en ville morte. Vous n'avez pas parlé de Kananga. À Kananga, il y a une marche et on a arrêté les gens. Bien sûr, on les a relâchés après. À Bandundu, nous avons jusqu'à
Paul
présent...
Paul Matendo venait d'en parler dans son élément.
Ah, merci beaucoup. Et nous avons à Bandunduville des gens qui sont à l'hôpital jusqu'à maintenant. Donc partout, c'est un succès et nous disons que les Congolais ont pris la mesure de l'affaire. Que personne, alors personne ici au Congo ne peut violer la Constitution. Même la Cour constitutionnelle. Monsieur Kabila y compris n'importe qui. Les choses sont très claires. Les Congolais sont partis pour cette marche en disant que nous devons donner des signes précis à ceux qui veulent violer la Constitution. 1. La CENI doit savoir qu'il a une mission contenue dans l'article 211 de la Constitution et que l'article 73 lui donne un ordre, c'est impératif, qu'elle doit organiser l'élection présidentielle. Elle doit convoquer cette élection présidentielle 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Et que l'article 70 est très clair. L'alinéa 2 dit que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ce n'est pas un président à élire. Donc cet article ou cet alinéa 2 de l'article 70 doit être lu avec l'article 73 ensemble. Donc cette marche a été un succès et nous avons dit aussi que nous devions marcher parce qu'il n'y a pas un gouvernement responsable, il n'y a pas un leadership responsable. On tue nos frères et sœurs à Goma et personne ne s'en émeut. J'ai introduit une question orale avec débat sur la question des Goma et jusqu'aujourd'hui on traite des choses inutiles à l'Assemblée, on ne pense pas à sauver des vies à Béni.
Avez-vous un bilan honorable en termes de blessés, de morts ou d'interpellés?
D'abord, le plus grand blessé, vous savez que le secrétaire ou la secrétaire générale du MLC, Madame Eve Bazaïba, a reçu une balle. Comment on peut tirer à bout portant? A reçu une balle, heureusement, que c'était sur le pied. Et Madame Bazaïba, les gars voulaient l'achever. Parce qu'elle a fait semblant comme si elle était totalement morte. Et comme ça, les gens l'ont protégée et Mme Eve Bazaïba a eu la vie sauve. Donc, ça c'est l'incident majeur. Mais pourquoi la police, qui a reçu l'ordre d'encadrer cette manifestation, en tout cas celle de Kinshasa, pourquoi la police a tiré à bout portant? Pourquoi la police a dispersé les manifestants?
Le ministre provincial à cet égard, honorable Fayoulou de Kinshasa, a affirmé en fustigeant même le fait qu'une partie des manifestants n'a pas respecté l'itinéraire.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Madame Eve Bazaïba a reçu la balle dans quel itinéraire? Ce n'est pas dans l'itinéraire imposé par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Et ça, il faut nous dire. Pourquoi, si nous qui étions sur l'avenue du 24 novembre, on a chargé, on a tiré sur nous, Dieu merci, il n'y a pas eu d'incident. Mais comment voulez-vous? Vous vous mettez d'accord avec quelqu'un. Il y a des collègues qui sont partis voir le gouverneur de la ville de Kinshasa avant-hier et se sont convenus. Parce que nous avons demandé cette artère-là. On devait aller jusque à la maison, comment dire, à l'immeuble du gouvernement. Mais ils nous ont dit, vous vous arrêtez à la place de Schengen. Et hier soir, très tard, moi j'ai appris la nouvelle après 20h, on nous dit que l'itinéraire a été changé. Or, nous avons déjà communiqué l'itinéraire à nos militants. Et c'est comme ça qu'il y a eu,
une sorte de cacophonie.
Ces deux itinéraires, parce qu'il y a des gens qui connaissaient l'itinéraire et ils sont partis, et d'autres sont partis dans l'autre itinéraire.
Honorable Fayoulou, il y a le colonel Monamputu, porte-parole de la police nationale congolaise, qui a de son côté dressé un bilan de 35 policiers blessés et des véhicules de la police vandalisés. Qui en est le responsable?
Mais il faut qu'ils nous disent les policiers, 35 policiers blessés, comment? Parce que les gens qui marchaient, n'ont pas touché aux policiers. Moi, j'étais à la marche, je n'ai pas vu. Alors, peut-être, quand ils ont commencé à tirer, et les gens ont réagi, mais je n'ai pas vu. Moi, j'ai vu les policiers, et même quand nous sommes rentrés au niveau, parce que après, on nous a repoussés quand nous sommes arrivés à la place Schengen, et j'ai vu des policiers tirer à bout portant. Je l'ai vu, j'étais là. Et nous avons pris la rue Isangi pour déboucher sur Ouléry. On est revenu de nouveau sur le boulevard Triomphal. Et j'ai vu là les policiers en train de charger et de lancer des bombes lacrymogènes sur les marcheurs. Ce n'est pas normal.
Monsieur André Alain Atundu Liongo, pour vous, vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle. L'opposition a-t-elle atteint son objectif, d'après vous?
Je ne pense pas. Je ne pense pas, d'abord sur le plan événementiel, une ville où l'opposition marche, c'est une ville en ébullition, où il y a une grande affluence. Et l'affluence des 200 000 dont il parle, c'est peut-être 2 000 personnes tout au plus. Donc il n'y a pas eu cette ébullition. Au contraire, la population a manifesté sa réprobation en restant chez elle. C'était comme une sorte de ville morte.
N'est-ce pas une réussite à mettre sur
le groupe de l'opposition? Non, les objectifs sont différents. lorsqu'on marche, on voudrait qu'il y ait le plus possible pour atteindre l'objectif ou les terminus. Donc, sur le plan événementiel, c'est un échec. Sur le plan constitutionnel, c'est une marche paradoxale. Lorsqu'on exige le respect de la Constitution en toutes ses dispositions, il faut savoir que la Constitution donne à la Cour constitutionnelle une mission, j'allais dire régalienne et normative, à savoir dire, mettre fin, donner une interprétation qui doit faire autorité et qui doit marquer comme le Rubicon à ne pas franchir dès lors qu'il y a plusieurs contestations. Parce que c'est l'avis de la Cour ou l'arrêt de la Cour qui va servir de référence en cas de dérapage. Alors, pousser les citoyens à ne pas respecter la Constitution en exigeant paradoxalement le respect de la Constitution, c'est un peu du n'importe quoi.
Alors, parce que vous faites allusion à la Constitution, monsieur l'ambassadeur, c'est vous qui avez toujours la parole, mais la Constitution parle également des libertés fondamentales qu'il faut respecter, notamment le droit de manifester, et selon certains observateurs, cela n'a pas été le cas.
Bien sûr, une démocratie a des fondamentaux pour qu'elle puisse fonctionner. Les fondamentaux de la démocratie, ce sont d'abord les fondamentaux de l'État, à savoir le respect de l'ordre public, le respect de la moralité, le respect des droits d'autrui et le respect des institutions. Voilà les fondamentaux qui permettent à chaque groupe d'exercer librement, d'après la Constitution, et sous la supervision des autorités civiles, leur liberté. Et donc à partir du moment où on s'attaque aux fondamentaux de la démocratie et de l'État, n'est-ce pas, par des tentatives de pillage, par des jets des prières, des pierres, des cocktails Molotov, évidemment, les forces qui ont pour obligation de faire régner l'ordre public doivent réagir. Cela est vrai sous les tropiques, cela est vrai au pôle Nord.
Alors, comment vous expliquez le fait que cette marche ait été autorisée à Kinshasa et à Bukavu notamment, et non autorisée dans les autres provinces? Comment vous expliquez ça?
C'est que les réalités sont différentes d'après les lieux. Ici, l'autorisation a été accordée à l'opposition, n'a pas été accordée à la majorité. Eh bien, la leçon à tirer ici, c'est qu'il faut toujours exercer la liberté avec les contraintes de l'État. Il n'y a pas de liberté sans contraintes. À partir du moment où vous vous abstenez de respecter l'ordre public, de respecter la moralité, vous refusez de respecter les droits d'autrui et de respecter les institutions, eh bien, il n'y a plus de liberté qui tienne. Ça, c'est de l'anarchie. Et quel est l'objectif? L'objectif, c'est de quoi? Quel est le mémorandum qu'ils ont lu? Parce que c'est ça. C'est ne pas seulement se présenter, soi-disant, devant l'hôtel du gouvernement ou je ne sais où, n'est-ce pas, pour mourir comme une vague à la plage. Il faut un objectif.
Mais est-ce qu'on leur a donné l'occasion de lire ce mémorandum parce qu'ils ont été dispersés?
Mais personne n'a entendu parler de ce mémorandum. Mais pourquoi ont-ils été dispersés? Parce qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements. On vous dit, vous allez comme ceci, eh bien vous devez respecter cet engagement. À partir du moment où il y a risque de dérapage, eh bien, et risque de dérapage et tentative de pillage, c'est normal, c'est légitime que les forces de l'ordre puissent sécuriser l'ensemble de la population, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas intéressés ou concernés par cette marche.
Nos informations font état d'un mort à Goma, n'est-ce pas un mort de trop? Cela ne pouvait-il pas être évité?
Ce n'est pas l'information que j'ai. L'information que j'ai, c'est que c'est un policier qui est entre la vie et la mort aujourd'hui. Il faut le signaler. Les forces de l'ordre payent un tribut à ces manifestations de démocratie.
Alors, tout à l'heure, on a suivi l'honorable Fayoulou fustiger le fait que la police a engagé la population. Finalement, le cas de Bukavu, où tout s'est bien passé, ne devrait-il pas servir d'école à la majorité présidentielle, aux autorités et au pouvoir?
Pourquoi voulez-vous épingler la majorité présidentielle? C'est une démarche démocratique et républicaine. Tout le monde doit respecter. Pourquoi, à Bukavu, il n'y a pas eu de clash? C'est parce que les manifestants ont respecté les directives des autorités de la ville. Si ici, ils avaient respecté leurs engagements, il n'y aurait pas eu de problème. Parce que les militaires, les policiers qui étaient chargés de les encadrer, vous pensez qu'ils sont devenus subitement fous pour tirer à bout portant?
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. En passant, signalons que le porte-parole de la police vient de confirmer qu'il y a un mort à Goma. Professeur Alphonse Maïndo, comment vous analysez cette situation?
Bien, merci beaucoup. Je pense qu'en écoutant les deux intervenants de tout à l'heure, ça montre bien ce à quoi on peut s'attendre. Hein. Donc le même événement peut être lu de différentes manières selon le regard qu'on y porte, selon la couleur des lunettes que l'on porte. Alors, ceci dit, je voudrais quand même souligner que cette marche de l'opposition aujourd'hui rappelle une chose, c'est que l'opposition n'entend pas laisser les régimes en place, la majorité présidentielle, décider tout seul ou dicter, si vous voulez, les destins de l'État et du pays. Et en même temps, elle a voulu aussi faire passer un message, hein, c'est de dire, voilà, il faut désormais compter avec elle pour la gestion de l'État et le destin du pays. Et donc, il me semble que là, l'opposition s'est plutôt servi de cette opportunité pour faire entendre un certain nombre de revendications, pour faire entendre sa voix, venir à l'existence, si vous voulez, de certains faits. Parce qu'en politique, s'il y a un fait qui n'est pas connu du grand public, en fait, il n'existe pas. Même si ça touche des millions ou des milliards d'êtres humains, ça n'existe pas. Et là, je pense que l'opposition a réussi, même si on ne veut pas rentrer dans une guerre des statistiques ou des chiffres. Simplement, le fait d'avoir, si vous voulez, monopolisé les médias et l'opinion publique nationale et internationale de la journée d'aujourd'hui, ça montre bien que l'opposition a fait, si vous voulez, un succès sur ce point-là. Donc il y a là, si vous voulez, on peut dire qu'il y a un certain nombre de succès. Mais donc, elle a réussi à remettre, si vous voulez, sur l'agenda politique nationale, cette question des massacres à l'est du Congo qui semble se perpétuer, mais aussi cette question du respect des règles constitutionnelles que nous avons mises en place depuis 2006. Voilà, je pense que là, on est bien dans son rôle, si vous voulez, de citoyens qui veulent influer sur la marche des affaires de leur pays. Alors maintenant, ce qui reste à savoir, est-ce que ce message a-t-il été suffisamment entendu? Et quelles sont les retombées? Et ça, Dieu seul le sait.
Professeur, qu'est-ce que vous répondez à certains observateurs qui pensent qu'il se pose un problème en RDC du respect des libertés fondamentales, notamment celui de manifester?
Oui, bon, évidemment, si vous voulez, pour répondre à cette question, je voudrais répondre par une réponse plus générale. Il ne faut pas oublier que le Congo, même s'il s'appelle démocratique, n'est pas démocratique. Et donc, dans un régime comme celui que nous avons ici dans ce pays, un régime autoritaire, les libertés publiques ne sont pas suffisamment garanties. Si vous voulez, à part, elles peuvent être autorisées dans la mesure où elles ne peuvent pas gêner, si vous voulez, le pouvoir suprême qui est exercé par les guides ou le chef de celui qui exerce le pouvoir suprême. Et donc, tant qu'il n'y a pas cette atteinte à cette menace ou cette tentative de menace du pouvoir suprême, on peut exercer jusqu'à un certain niveau des libertés. Mais autrement, les libertés ne sont pas les bienvenues dans ce type de régime autoritaire. Et c'est le cas de notre pays. Et vous avez vu, et ça montre aussi que, y compris dans les rangs de ceux qui sont aux affaires, il n'y a pas homogénéité, il y a pluralité, il y a hétérogénéité. Et c'est pour ça que vous allez voir que dans certains endroits, on autorise, dans d'autres, on refuse, et pour la même manifestation. Cela montre bien qu'on voudrait soit assurer une espèce de décompression à certains endroits où on estime que la pression est trop forte. Il ne faut pas que ça explose, sinon le moteur va exploser et on ne pourra pas faire continuer les véhicules, l'engin, pour faire marcher l'engin. Et donc on est là dans cette logique-là.
Alors, professeur, est-ce que cette marche, de la manière dont elle s'est déroulée sur l'ensemble du pays, est-ce qu'elle redessine la carte des forces politiques sur l'étendue nationale?
Bon, il me semble qu'il est un peu trop tôt pour pouvoir tirer d'aussi importantes leçons de cette manifestation, puisqu'on voit bien que presque l'ensemble du pays s'est mobilisé. Mais si on regarde les chiffres en termes de mobilisation, on ne peut pas dire qu'il y a véritablement, une nouvelle repartition de cartes politiques, hein, parce que la mobilisation est quand même restée assez limitée en termes du nombre. Mais en termes de l'impact est quand même assez remarquable, puisqu'il n'y a pas eu d'activité. Et donc, ce qui est, si vous voulez, un effet indésirable, qui n'était pas un effet, qui n'était pas voulu au départ, indésiré, mais qui est arrivé, parce que la vie nationale a été paralysée dans bien d'endroits, et donc ça montre bien qu'il y a une capacité d'influencer. Alors, je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que lorsqu'on est dans ce que moi j'appelle le syndrome d'Ève, hein, vous voulez interdire aux gens de faire ci ou de faire ça, souvent c'est toujours contre-productif, parce que ça ne permet pas, ça pousse les gens à vouloir faire davantage. Et il y a une anecdote à cet effet, hein, c'est ce qui s'était passé en octobre 59, avec le congrès du mouvement national congolais qui avait fait son congrès à Kisangani, à Stanleyville à l'époque. Hein. Le gouverneur des Falls l'avait autorisé, mais au niveau national, on lui avait reproché ça. Pourquoi il l'avait autorisé? Il avait bien dit, je ne peux pas refuser à quelqu'un de parler, puisqu'il parle même en Belgique, et des gens l'écoutaient. Donc, je ne peux
Merci
pas
professeur.
Lui interdire de parler à Stanleyville.
Merci, professeur. Honorable Fayoulou, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de la province du Lualaba.
Philippe Maseka à Kolwezi au Lualaba. Pourquoi l'opposition congolaise préfère-t-elle exprimer ses revendications dans la rue au lieu de se retrouver autour d'une même table avec toutes les tendances politiques afin que tous les problèmes qui divisent la classe politique congolaise soient réglés définitivement? Et cette attitude de l'opposition ne traduit-elle pas finalement une mauvaise foi de prendre part au dialogue en vue?
Honorable Fayoulou.
Monsieur Maseka, il n'y a pas de revendication à exprimer dans la rue. C'est le respect de la Constitution qu'il s'agit et on n'a pas besoin d'un dialogue aujourd'hui pour faire respecter cette Constitution. Quand hier nous avons dit qu'il y avait crise de légitimité, Monsieur Kabila et ses amis, Monsieur Yatundu ici, n'ont pas voulu nous écouter. Alors aujourd'hui, tout le monde doit respecter la Constitution. Et je voulais dire, Monsieur Yatundu me fait sourire et j'ai pitié, vraiment pitié, parce que il parle de ville morte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ville morte, c'est que nous avons eu un succès franc. Et succès franc pour l'opposition, car nous avons eu et la ville morte et la marche. Donc, je ne comprends pas. Et il dit plus loin.
Vous le faites également sourire.
Non, mais oui, qu'il sourit. Mais on va aller plus loin, parce que moi j'ai pitié plutôt. L'autorité urbaine a pris acte de la marche et du PPRD et de l'opposition. Mais c'est plutôt le PPRD qui a estimé qu'il ne pouvait pas organiser sa marche. Il est dans le mouvement, il ne sait pas ce qui se passe. C'est très dangereux. Et troisièmement, j'aimerais dire à M. Yatundu que la Cour constitutionnelle n'a jamais donné une interprétation disant que M. Kabila doit demeurer au pouvoir s'il n'y a pas élection. La Cour constitutionnelle a jeté une confusion totale. On lui pose la question, s'il n'y a pas élection, M. Kabila reste-t-il au pouvoir ou pas? La Cour constitutionnelle n'a pas répondu. La Cour constitutionnelle s'est bornée à répéter in extenso l'alinéa deuxième de l'article 70, en ajoutant pour préserver le principe de la continuité de l'État. Le principe de la continuité de l'État, ce n'est pas dans l'article 69 qu'on le trouve, c'est plutôt dans l'article 75. Si M. Kabila mourait demain, si M. Kabila de lui-même démissionnait demain, la continuité du pouvoir, comment les retrouver dans l'article 69? Ce n'est pas dans l'article 75 qui dit que c'est le président du Sénat qui assume momentanément les fonctions du président de la République. Donc nous nous disons, écoutez, professeur, je suis totalement d'accord avec vous, mais j'aimerais que vous regardiez les films pour voir l'affluence. Des mémoires des citoyens congolais, je n'ai jamais vu dans une manifestation ici à Kinshasa autant d'affluence. Vous avez deux fois plus le match V-Club et Imana qui sort et les supporters qui sortent du stade. Donc, je peux vous le garantir, il y a eu plus de 200 000 personnes ici à Kinshasa.
Honorable, je posais tout à l'heure la question au professeur Maïndo si la marche d'aujourd'hui permettait de redessiner une carte politique de la RDC. Il a estimé que c'est un peu trop tôt de faire une telle affirmation.
Oui, il est professeur de sciences politiques, il sait de quoi il parle, mais moi je suis politique et je vois, je viens de Bandundu, j'étais à Kananga, j'étais à Goma, mais la carte politique, quand les gens vous disent ici, mais pourquoi il n'y a pas de dialogue? Pourquoi ils n'ont pas réussi à organiser leur dialogue? Parce que la majorité des Congolais n'acceptent pas ça, parce que la majorité des Congolais dit que M. Kabila doit partir, et c'est connu. Donc, la carte politique, qui dessine cette carte politique? C'est le peuple congolais. Le peuple congolais dit une seule chose, que nous voulons que la constitution soit respectée par tout le monde. Et c'est ça. Donc, si maintenant vous dites qui est majoritaire ou pas, vous pensez que les gens qui veulent le dialogue ils sont majoritaires? Vous pensez que les gens qui veulent les glissements sont majoritaires? Vous pensez que les gens qui lèchent des bottes et qui ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont totalement irresponsables et ils sont majoritaires?
Alors, qu'est-ce que, en passant, avant que je ne donne la parole à M. Atundu, comment vous expliquez le fait qu'à Mbujimayi, les organisateurs n'ont pas pu se mettre d'accord, étaient eux-mêmes divisés sur la marche?
Non, mais écoutez, nous sommes dans une société humaine, ça peut y arriver. Allez voir la cacophonie qu'il y a aujourd'hui dans la majorité. Pourquoi ils ne se mettent pas d'accord? Donc, nous sommes dans une société humaine, tout ça peut y arriver. Mais ce qui compte pour nous, c'est que le peuple congolais a pris conscience que le changement doit intervenir dans ces pays. Le peuple congolais a pris conscience que personne ne peut lui dicter quoi que ce soit et personne ne peut violer sa constitution parce que, je ne sais pas, il est sorti de la cuisse de Jupiter ou de je ne sais qui.
Monsieur Atundu, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Félix Tangatanga à partir de Bukavu. Le constat que moi personnellement je fais de la journée du 28 mai est que l'opposition a su mobiliser partout dans le pays et a véritablement atteint son objectif en envoyant un signal fort au camp adverse. Kinshasa, Bandundu, Mbandaka, Lubumbashi, Moba, Kalemie, Mbujimayi, Kananga, Bunia, Beni, Butembo, Kisangani, Goma, Bukavu, Uvira, Walungu, etc. C'est véritablement l'ensemble du territoire national qui était en ébullition. Malgré le déploiement de l'escadron de la mort, le peuple a triomphé et lui a envoyé un message pressant au pouvoir en place. Ceci devrait être bien capitalisé en termes de leçons apprises pour le pouvoir en place, étant donné que les jours à venir risquent d'être plus compliqués.
Monsieur Atundu.
Escadron de la mort. J'espère qu'ils respectent le sacrifice de nos forces de défense à Beni et partout où l'ordre public est exigé pour la sécurité des citoyens. Il n'y a pas eu d'escadron de la mort. Ça, c'est de un. Deuxièmement, le professeur parle d'un régime autoritaire. Ce régime n'est même pas unilatéral. La gestion n'est pas unilatérale. Le Parlement est là pour assurer une gestion participative. Le dialogue politique est là pour assurer une gestion participative. Mais, c'est la démocratie. Lorsque quelqu'un se comporte en enfant gâté, que voulez-vous que la République fasse ? Les forcer, c'est aller contre le principe démocratique. Voilà pourquoi le facilitateur, en l'occurrence, ne se limite pas seulement à parler avec ceux qui sont d'accord pour le dialogue, mais cherche à ce que tout le monde soit là, parce que il s'agit de débattre du processus électoral, un élément important pour notre démocratie, son fonctionnement normal, et important pour le fonctionnement normal de l'État. Quant à l'interprétation de M. Fayoulou, je ne veux pas de l'arrêt de la Cour. je ne veux pas le suivre dans sa philosophie obscurantiste. L'homme politique doit éclairer l'opinion. Saisir la Constitution, la Cour suprême, c'est un acte républicain et démocratique. Ça n'a pas été fait dans les alcôves. Et la Cour suprême s'est exprimée. Et la Constitution dit, lorsque la Cour suprême s'est exprimée, la cause est entendue. Comme dirait-on à l'Église, Roma locuta causa finita. Alors, prendre des accents pathétiques de démocrate, alors qu'on refuse de respecter les dispositions pertinentes de la Constitution, si cela ne prête à sourire, en tout cas cela prête à réfléchir profondément sur la démarche ambiguë de certains hommes politiques et finalement sur l'objectif réel qu'ils voudraient.
Alors, je vous demande une très brève réaction, Monsieur Atundu. Le professeur Mahindo disait tout à l'heure que la marche d'aujourd'hui constitue tout un message adressé au pouvoir. Avez-vous compris ce message? Quelles en seront les conséquences pour vous?
Quel est le message?
Au niveau de la majorité.
Quel est le message? Ce sont des citoyens qui ont demandé l'autorisation paradoxale de manifester contre un arrêt de la Constitution. Ici à Kinshasa, le gouverneur l'a autorisé, dans d'autres lieux oui, dans d'autres lieux non. Eh bien, il n'y a pas de message particulier. Ils n'ont pas de message à passer. Crier que Kabila doit partir parce que le 19, ce n'est pas une révélation divine.
Voilà, il y a Kilikumbi Lusumba Sumba de Kindu qui dit, à mon avis, le pays va de mal en pis. En Suisse, cette énième bourde du pouvoir en place vient mettre un terme au rêve d'un dialogue politique inclusif, car les actes de la mouvance au pouvoir ne sont pas à décrisper la situation, mais plutôt à la crisper davantage, M. Atundu.
Mais je ne comprends pas. Ceux qui font ou qui voudraient que le pays aille de mal en pis sur le plan politique, ce sont ceux qui refusent le dialogue. Ceux qui refusent le dialogue en ne donnant pas une solution alternative. On dit, il faut que les élections soient organisées, oui, tout le monde est d'accord, mais celui qui a la charge d'organiser les élections dit que j'ai des problèmes. Il faut que la classe politique puisse lever une option pour que moi je continue. Alors, au lieu de prendre le taureau par les cornes, eh bien, ils font la politique d'autruche, enfoncent leur tête dans le sable, et même malheureusement, la queue est visible.
Merci. Professeur Mahindo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de la province de l'Ituri.
Est-ce que le pouvoir peut ouvrir le pouvoir de cette contradiction? On aurait dit vous, par exemple, le gouverneur juge que non sans cette manifestation qui, d'ailleurs, visait à réconforter ses habitants et à suivre qu'à ça, le gouverneur l'accepte et l'autorise sans commentaire. Je trouve qu'en Afrique, quand on veut pleurer à côté de la personne endeuillée, c'est elle qui doit pleurer plus. Juger la marche de sage importance dans un coin et l'autoriser dans l'autre trouve qu'il y a crise dans l'espace décisionnel national.
Professeur, j'ajoute cette réaction de Fabien Kakoulou de Kinshasa qui dit « Les restes des provinces de la RDC doivent justifier devant l'opinion tant politique que publique l'interdiction de cette marche pacifique qui entre dans le cadre d'une démarche constitutionnelle car ceci montre un désordre avec lequel certaines autorités locales dirigent leurs provinces respectives tout en violant les droits de certains en particulier et de l'opposition en général. Félicitations aussi à la majorité présidentielle pour avoir reporté sa marche car cela devrait à tout prix occasionner des troubles sur l'étendue du pays, professeur.
Oui, bien, merci beaucoup. Je pense que c'est quand même bien dit. Il faudrait quand même rappeler une chose, c'est que le droit de manifester, c'est un droit. Et selon les textes qui nous régissent, on ne demande pas une autorisation de manifester ou d'exprimer ses droits. On l'exerce, on informe l'autorité simplement.
Exactement.
Mais il y a des abus. Mais il faut que l'autorité peut refuser ça uniquement s'il y a trouble à l'ordre public. Mais trouble à l'ordre public, ce n'est pas une intention. Il faut que ça soit établi, avéré. Voyez-vous, donc on est là dans un abus de pouvoir. Et cela me conduit à parler justement de faire un commentaire sur ce qu'a dit M. Atundu tout à l'heure. Lorsqu'on parle de régime autoritaire, qu'est-ce qu'un régime autoritaire? Premièrement, il y a donc ici un pluralisme limité en termes de compétition pour accéder au pouvoir. Il y a donc un certain nombre de restrictions qui sont faites à certaines personnes pour les empêcher, d'accéder au pouvoir. Et deuxièmement, il y a les libertés qui sont pas bien garanties, qui sont pas bien exercées. Si on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on tire à balles réelles sur les gens qui manifestent pacifiquement, notamment à Goma? Voyez-vous, on peut donner bien des exemples des gens qui se retrouvent aux arrêts ou en prison parce qu'ils ont exercé leur droit d'expression ou leur droit d'opinion ou autre. Alors, en dernier lieu, il y a également, dans le régime autoritaire, la faible institutionnalisation des compromis politiques. Et c'est pour ça que les gens auront tendance à recourir plutôt à des moyens violents, à des moyens non constitutionnels, parce que dans les jeux politiques, il y a cette faible institutionnalisation du compromis. Et donc les gens ont tendance à faire la confrontation, et certains vont jusqu'à aller plus loin, dans la forme la plus paroxystique, c'est le recours à la force armée, si vous voulez, à la rébellion ou à d'autres formes. Alors ça, c'est pour ce qui concerne ce que je voulais dire par rapport à ça. Et je voudrais aussi ajouter une chose que disait Eric Fromm. C'est lui qui revendique, par exemple, un père de famille qui revendique, c'est moi le chef de cette famille, c'est moi le chef. C'est qui s'est rendu compte qu'il n'est plus le chef de cette famille-là. Et quand on revendique la démocratie, on dit nous sommes pays démocratique, c'est parce qu'on ne l'est pas du tout. Voyez-vous, la France, les États-Unis, la Belgique ne se disent pas démocratiques parce qu'elles le sont. Ils le sont. Alors, ceci dit, pour revenir à ce que disait tout à l'heure l'honorable Fayoulou, je suis bien d'accord avec lui, aujourd'hui il y a un signal important. Mais lorsque l'on se situe sur une longue période, sur la longue durée, comme disait Fernand Braudel, donc on peut comprendre des significations différentes de ce qu'on a vu aujourd'hui. 200 000 personnes à Kinshasa pour une ville de 12 millions d'habitants, c'est quand même insignifiant. Statistiquement, c'est quand même très peu. Voyez-vous, on aurait pu avoir 1 million d'hommes à Kinshasa, ce serait une manifestation monstre. Et je rappelle bien qu'en février, le 16 février 1992, la marche des chrétiens avait mobilisé beaucoup plus de monde que ce qu'on a vu aujourd'hui, si vous voulez, dans les images qu'on a pu voir. Et donc, en ce qui concerne maintenant la question qui nous est venue de notre collègue, disons, de l'auditeur de Lituri, évidemment, lorsqu'on observe ces différentes, si vous voulez, ces tris sur la tête du client, j'allais dire ça comme ça, entre les différentes autorités pour autoriser ou ne pas autoriser une manifestation, il y a une première chose que je voudrais dire tout à l'heure, c'est qu'on est là face à une pluralité de l'élite dirigeante. Donc on n'a pas une élite homogène, hétérogène, il y a donc une pluralité des élites. Et il y a donc il y a des factions dans l'élite, même au sein de la majorité, il y en a qui ne sont pas complètement d'accord avec ce qui se passe. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des fortes pressions, si pas des tentatives d'influences très fortes, une influence très forte de la part de certaines puissances partenaires du Congo ou non, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Nations Unies, pour dire qu'ils vont surveiller ce qui va se passer et qu'il faut vraiment qu'on respecte les droits à manifester des gens. Et donc ça, ce n'est pas du tout... Ça peut aussi influer pour que là où il y a ces témoins-là, notamment des observateurs étrangers comme à Kinshasa ou dans d'autres endroits, on puisse autoriser, et que là où il y a moins de témoins, moins d'observateurs, qu'on n'autorise pas, ou que l'on puisse, voyez-vous, faire plus de pression dans certains endroits. Et donc je pense que ces différents éléments, au moins ces deux éléments-là, peuvent permettre de comprendre cette symétrie, si vous voulez, à plusieurs variables, si vous voulez.
Merci, professeur. Honorable Fayoulou, il y a Elilo Kwadwo Mbandaka qui dit l'institution la plus puissante et la plus suprême dans un pays démocratique, c'est la population. Quelle que soit la présidence, le parlement, le parquet général ou la cour constitutionnelle, toutes ces institutions sont contrôlées par le souverain primaire, c'est la population. Toute tendance politique dictatoriale ou néocolonialiste n'est que sans effet dans un État démocratique tel que le nôtre.
Il a totalement raison, mais d'abord je voulais dire merci au professeur pour sa leçon sur les régimes autoritaires. Votre auditeur a totalement raison, le souverain primaire, c'est le peuple, et c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui confère le pouvoir. Donc le peuple a décidé, et j'ai dit au professeur, je suis d'accord...
Et qui doit agir dans le respect des normes et des lois établies.
Exactement, et c'est ça que nous faisons. Nous sommes dans la Constitution. Nous agissons par rapport à la Constitution. Quand l'article 26 nous dit que les manifestations publiques sont garanties. C'est dans la Constitution. Quand nous écrivons au gouverneur de la ville, nous faisons référence à un article de la Constitution. Donc, professeur a raison par rapport à la manifestation du 16 février 92. J'y étais, mais qu'il attende. On arrive. Rendez-vous en septembre, le 19 septembre, parce que la CENI doit à tout prix, convoquer l'électorat. Mais j'aimerais encore dire ceci. Une fois de plus, j'ai pitié des gens qui ne sont pas consistants. Ils disent une chose aujourd'hui et une autre demain. Monsieur Atundu a participé dans une émission avec moi. Et je crois qu'il a une mémoire courte. Dans une émission sur Télé7, excusez-moi de citer Télé7 ici, en 2012. Quand à l'époque nous réclamions le dialogue pour traiter de la crise de légitimité, Monsieur Atundu m'avait dit qu'on n'a pas besoin de dialogue. Exactement comme M. Mende, que les institutions de la République fonctionnaient et qu'on n'avait pas besoin de dialogue. Alors, aujourd'hui, on a besoin de dialogue, pourquoi? Donc, je crois qu'il y a un sérieux problème. Nous disons ceci. La Constitution est là. L'article 73 de la Constitution est clair quand il dit qu'on ne peut pas contester l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais quand l'article 73 dit que le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Et ce n'est pas clair? J'aimerais que M. Atundu me dise clairement là où la Cour constitutionnelle a dit que M. Kabila doit demeurer au pouvoir. Parce que pour moi, la Cour constitutionnelle s'est bornée à dire le président actuel reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. C'est-à-dire que le président doit être élu. Et la Constitution ne prévoit pas des cas où il n'y a pas élection présidentielle. Ah. Et c'est ça. Donc, si on est là pour, débiter des choses ici pour satisfaire certaines personnes, et je crois qu'il faut suivre la Constitution.
Honorable, l'émission va toucher à sa fin. En guise de conclusion, comment vous entrevoyez la suite du processus politique en RDC, brièvement?
Mais la suite, les changements arrivent, le peuple congolais va prendre son destin en main, et nous allons continuer et nous allons monter en pression, et comme le professeur nous a dit, que le 16 février 92, il y a eu beaucoup de monde et nous allons chaque mois, nous avons une action importante pour dire qu'on ne peut pas violer la Constitution et que M. Kabila doit partir le 19 décembre 2016.
M. Atundu, comment vous entrevoyez la suite du processus politique en RDC?
Je voudrais d'abord répondre au professeur que ce régime n'est pas autoritaire au regard des critères qu'il a donnés. Pluralisme limité. Mais les partis, il y en a en veux-tu, en voilà. Vous voulez faire ceci, d'après la Constitution, vous le faites. La limitation du pluralisme concerne quel parti, quel secteur de la vie publique? C'est faux. Deux, liberté non garantie. Mais les forces de l'ordre interviennent pour assurer la liberté à tous. Et donc la liberté non garantie ne signifie pas laisser l'anarchie s'installer. Ne pas respecter les engagements et mettre en danger la sécurité des autres. Faible institutionnalisation du dialogue. Eh bien, l'institutionnalisation du dialogue, à travers tout régime démocratique, se fait à travers le Parlement. Nous avons le Sénat, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons même les assemblées provinciales. Et on peut descendre plus bas.
Eh bien, par rapport à la suite du processus politique.
La suite du processus politique tiendra compte... dépendra malheureusement de la bonne foi de l'opposition qui reste approuvée. Il ne s'agit pas de toute l'opposition, de l'opposition radicalisée. Parce que il faut respecter les institutions et les animateurs. L'opposition, ça c'est la conclusion vraiment, aujourd'hui il est apparu que l'opposition n'existe que par négation philosophique.
Merci.
C'est le néant de l'être.
Merci. Professeur Maïndo, conclusion. Comment vous entrevoyez également, vous, la suite du processus politique?
Bon, pour moi, la suite du processus politique dépend de l'audition, si vous voulez, du régime en place, de différents messages que lui envoie la société civile ainsi que les partis politiques, mais également de la manière dont les forces vives de cette nation vont pouvoir s'accorder pour militer ensemble de manière à influencer durablement et effectivement, efficacement, si vous voulez, l'état du pays.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci au professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne, Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Merci à l'honorable Martin Fayoulou, député national de l'opposition et président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Force acquise au changement FAC. Merci à monsieur André Alain Tundu-Liongo, porte-parole de la majorité présidentielle. Merci également à vous, mesdames et messieurs, qui avez été des millions à nous suivre partout en RDC sur radiocapi.net. Merci de votre attention. Au revoir.